L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Les cheminots des Pays de la Loire sont en colère contre Christelle Morançais, la présidente de région. Leur nouveau slogan, les 3 M de Morançais, dénoncent malhonnêteté, amateurisme et omerta. Mais alors, quelles sont les raisons de cette colère dirigée contre la présidente de région? Eh bien, notamment un plan de privatisation que la CGT cheminots juge hasardeux et inefficace. Bonjour Olivier Guix.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la CGT cheminots des Pays de la Loire. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à la présidente de région Christelle Morançais à travers ces 3 M de votre slogan « Malhonnêteté, amateurisme et omerta » Qu'est-ce que ça veut dire?
Ils ont une posture totalement idéologique, en fait. Depuis 10 ans, en fait, ils ne font pas grand-chose pour le ferroviaire sur les Pays de la Loire, à part vouloir ouvrir à la concurrence. Et à cause de ça, en fait, ils perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur de la réflexion, déjà, initialement, parce que quand on veut augmenter le trafic, modifier l'offre, acheter du nouveau matériel, ça se réfléchit, ça se débat avec d'ailleurs les usagers, avec les citoyens, et ça, tout ce qu'ils n'ont pas fait depuis 10 ans, et en fait, uniquement pour mettre en place l'ouverture à la concurrence. Et voilà, donc ils vont d'échec en échec, mais tout va bien et on continue à perdre du temps.
Alors effectivement, la région veut ouvrir le réseau TER à la concurrence et ça passe notamment par l'exploitation des tram-trains par SVLO, une filiale privée de Voyageurs SNCF. L'objectif pour la région, c'est que cette concurrence entraîne davantage d'offres et des offres plus avantageuses pour les usagers notamment. Mais ce que vous nous dites, Olivier Guix, c'est que ça ne fonctionne pas, c'est ça?
Alors sur SVLO, c'est très compliqué. Au mois de mai, on a supprimé plus de 30 trains. On ne peut plus faire jouer la mutualisation en fait, entre les différents services, puisque là, c'est une entreprise purement privée. En fait, il faut comprendre que leur idée est de faire 4 ou 5 PME du rail en fait, sur la région, sachant que l'État en fait de même avec l'intercité, c'est-à-dire les Nantes-Bordeaux-Nantes-Lyon, c'est-à-dire que tout ce qui était le matériel régional et les équipes régionales qui travaillaient en commun, donc on mutualisait les moyens. Aujourd'hui, tout ça, ça va exploser. Donc, on en est rendu, par exemple, on va créer avec ça alors 3 nouveaux ateliers. Donc, on pourrait se dire, chouette, des nouveaux ateliers pour plus de maintenance. En fait, c'est pas pour faire ça, c'est pour faire un atelier par petite entreprise.
Donc, il n'y a plus de mutualisation des moyens, en fait.
Et sans réfléchir du tout à la logique ferroviaire, en fait. Nous, ça fait des dizaines d'années qu'on demande un atelier au Mans. Alors, il y en aura un dans le cadre de l'ouverture à la concurrence de l'étoile du Mans. Mais nous, on l'envisageait dans une logique interrégionale, puisqu'on a des trains qui passent de la région parisienne, de Normandie, de Centre-Val de Loire. Donc, c'est en commun qu'il faut envisager tous ces achats, tous ces investissements lourds et surtout avec une logique ferroviaire. Tout ce que ne fait pas aujourd'hui la région.
Oui, parce que ces différentes entreprises auront des moyens différents, cependant, on est d'accord que les trains roulent sur les mêmes rails, a priori.
Ah oui, ça, pour le coup, on ne refera pas le ferroviaire différemment. Les trains se succéderont donc sur le rail. Alors ça, c'est une typicité européenne, c'est-à-dire qu'elle a voulu imposer l'ouverture à la concurrence avec différents opérateurs sur le même rail. Partout ailleurs dans le monde, quand il y a des réseaux privés, même des réseaux privés, en fait, il y a un opérateur sur un réseau. Vous voyez, ça n'existe pas, en fait, ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est quasiment infaisable, en fait, parce que ça crée beaucoup, beaucoup de complexité après en gestion du réseau. Et là, on n'en est qu'au début, en fait. C'est-à-dire que quand on aura vraiment tout ouvert à la concurrence, il ne fera pas beau être voyageur.
Oui, on imagine bien les difficultés à se coordonner du coup entre les différents acteurs. Début mars déjà, vous communiquiez l'échec de cette privatisation qui n'a lieu que depuis mi-décembre 2024 concernant SVLO en tout cas. Et vous dénonciez notamment de mauvaises conditions de travail des cheminots. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Oui, alors pour faire plus de trains, donc il faut que les roulements soient plus productifs dans cette logique purement économique. Et ce qui fait que, par exemple, c'est beaucoup de jeunes conducteurs et conductrices, comme on ne veut pas leur attribuer le titre vraiment de roulant et donc qu'ils ne soient pas sédentaires, on les oblige, par exemple, à prendre des voitures à 3h du matin pour aller faire des trains en tête de ligne, c'est-à-dire ils partent de Nantes et ils font 3/4 d'heure de voiture, en plus déjà de leur trajet initial, pour aller faire des trains à Clisson, par exemple.
Donc c'est des journées plus longues, quoi.
Oui, et puis un risque routier, et puis donc, ça crée forcément de la fatigue physique, morale. Et aujourd'hui, beaucoup craquent déjà. Donc c'était déjà des roulements qui étaient compliqués à l'époque de la SNCF. Et là, aujourd'hui, ça devient vraiment très très compliqué.
Et alors, vous observez plus de départs de cheminots ou d'arrêts maladie depuis cette entreprise
d'arrêt
de
maladie, oui. Des départs. Pour l'instant, on en a, mais c'est pas encore l'hémorragie. Mais en tout cas, c'est certain que là, ça se tend. Et donc, du coup, il y a des arrêts de travail nombreux.
Alors pourtant, derrière cet outil de la concurrence, il y a un enjeu important, celui de proposer davantage de trains pour réduire les déplacements en voiture. Avec une augmentation de 67% du nombre de TER d'ici 2032, c'est en tout cas l'objectif de la région. La participation d'acteurs privés, ça constituerait quand même un atout de taille dans cet objectif.
Donc là, on rentre sur le premier M, le mensonge. C'est-à-dire que les 67%, ils n'ont jamais été chiffrés, ils n'ont jamais été démontrés. On ne sait pas comment ils comptent les faire. Et pour preuve, le premier appel d'offres SVLO, alors dans son ensemble, c'est-à-dire que là, il y a une première partie tram-train qui a été ouverte donc, au 15 décembre 2024, mais il y aura en 2026 l'ensemble Sud-Loire qui va donc basculer dans SVLO. En fait, c'est 30-35% de plus sur les 10 prochaines années. On est loin des 67%. Donc en fait, ils n'ont jamais démontré comment ils pensaient. Donc ça, c'est un chiffre balancé en l'air, donc qui amuse tout le monde, en fait, mais... concrètement, comment on fait? Nous, on voudrait bien en discuter. On est pour faire 67 ou 100%, doubler le trafic, ça, ok. Simplement, ça nécessite des investissements lourds. Et c'est aussi pour ça qu'on était rassemblés au Conseil régional au début du mois. Parce que, justement, on voulait démontrer au fait aussi... l'État a ouvert une conférence de financement du réseau. Il manque tous les ans 1 à 2 milliards d'euros pour financer le réseau. Et nous, on a des propositions à la CGT. D'ailleurs...
Donc pour financer un réseau qui serait entièrement public, du coup.
Voilà, oui, évidemment, parce que c'est ce qu'il y a de plus performant. De toute manière, l'histoire ferroviaire l'a toujours démontré. Donc, au moins, on mutualise. Et surtout, c'est qu'on ne fait pas d'investissement à perte, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être fait.
Alors, lors de votre action du 19 juin devant l'hôtel de région, parmi les points que vous dénonciez, il y a aussi l'augmentation des tarifs des billets de TER. Est-ce que l'ouverture à la concurrence, n'aiderait pas justement à pallier ce problème-là?
Ils ouvrent à la concurrence, ils augmentent les billets. Donc, il y a là aussi quelque chose d'incohérent par rapport à leur discours. En fait, non, dans leur logique, en fait, ça doit coûter moins cher au patronat. Par contre, et aux impôts de certains, mais par contre, depuis le début, l'ouverture à la concurrence, il est prévu que ça s'accompagne d'augmentation du billet pour l'usager, on va dire, du quotidien, donc ce qu'on a pour le service public ferroviaire.
Mais que ça coûte moins cher au patronat, c'est-à-dire sur quoi vous basez?
Par exemple, il y a le versement transport complémentaire qui pourrait être un levier de financement pour le TER. Eh bien, la région refuse de lever donc cet impôt, c'est 30 millions d'euros par an. C'est pas ce qui fait le budget complet de.
Un impôt qui est imposé à qui, du coup, en principe?
C'est le versement transport qui existe déjà, c'est-à-dire que pour chaque salarié qui se déplace donc pour aller à son travail, en fait, les entreprises versent en fait un petit pourcentage donc pour justement aider à ces transports. Et ça s'appelle le versement transport. Il y a un complément qui est possible aujourd'hui. C'est quelque chose... Les collectivités locales se plaignent souvent de ne pas avoir les ressources pour mener leur politique publique. Là, ils pourraient le faire. Et ce conseil régional ne le fait pas.
Alors, au-delà de l'augmentation des prix, des tarifs des billets, vous alertez aussi sur le fait que le système de distribution des billets sera externalisé. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Les billets ne seront plus vendus par la SNCF?
Non, voilà. Alors, la région a pris ce choix. Alors, elle a déjà pris un choix très compliqué, c'est-à-dire qu'elle s'est complètement déconnectée, en fait, de la tarification SNCF. Donc, ça commence déjà à poser des problèmes en termes de compatibilité pour organiser un voyage de bout en bout. Mais là, en fait, ils vont même sortir du système SNCF, du réseau de vente, donc en passant par un acteur privé qui est adossé à un acteur public, qui est la Banque Postale. Donc, vous voyez le monde merveilleux dans lequel on vit, c'est-à-dire que la Banque Postale n'est plus trop une poste, mais par contre va faire de la vente de billets de train. donc, on mélange les choux et les carottes. Mais en tout cas, Ça, nous déjà, on a une question, c'est qu'est-ce qu'on va faire des vendeurs qui restent encore à TER? Ça, c'est une vraie question qui est posée. On n'a pas la réponse. Et les usagers qui ont l'habitude d'avoir des guichets dans les gares, pour, là où il en reste encore, sur la Sarthe, il en reste malheureusement très peu. Hein, il en reste un peu à Sablé, il en reste un petit peu à Château-du-Loir, à Écommoy, mais enfin pas grand-chose. Quoi. Et sur des horaires qui ne sont pas complets. Mais même là, en fait, ça va certainement disparaître. Voilà.
Alors, de manière générale, il semble que vous ayez des difficultés à communiquer avec la région. Est-ce que le dialogue est possible ou pas du tout?
Il est compliqué. Bon, après, c'est pas... ils savent bien qu'on ne défend pas les mêmes orientations. Mais nous, depuis le début, alors, on siège à peu près à tous les comités de ligne. On siège aussi donc, au comité des partenaires, hein, qui sont les instances... qui sont prévus donc, par la loi dans le cadre des transports publics. On a bien vu que là, c'est l'omerta, on va dire, le M omerta. C'est qu'en fait, ces commissions se sont vidées de leur sens, en fait, et on n'y présente plus grand-chose, on n'y débat plus de grand-chose, en fait. Parce que tout ce qui est maintenant ferroviaire, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, ben, ce sont des données économiques, et des données donc, qui relèvent du secret commercial. Donc, de quoi débattre avec les usagers quand tout est secret commercial? C'est exactement ce qu'on a vu avec le fret ferroviaire maintenant, il y a maintenant 15 à 20 ans. C'est-à-dire qu'on avait pléthore de chiffres, on savait exactement ce qui roulait sur la région, on pouvait analyser, on pouvait faire des projections. Aujourd'hui, tout est donné commercial et donc soumis au secret. Et donc là, bah, pour le voyageur, on rentre dans ce schéma. Par exemple, les chiffres qui étaient jusqu'en 2019... en fait, tous les chiffres économiques de chaque ligne étaient diffusés donc, via la Cour des comptes régionale. C'était sur un site internet, on pouvait les trouver, et chacun pouvait voir même faire le calcul du coût train-kilomètre par voyageur, s'il voulait.
Et donc aujourd'hui, c'est complètement opaque, du coup,
c'est
ces
opaque,
chiffres-là.
Voilà.
Alors du coup, est-ce que ça veut dire que des grèves sont à prévoir sur le réseau TER prochainement?
Ça, vous savez, on ne peut pas savoir. C'est... les cheminots en ont marre, voilà, beaucoup. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'abattements, mais c'est pas, il n'y a pas que dans ce corps de métier qu'il y a de l'abattement. Alors après, chez nous, des fois, ça se réveille. Voilà, ça s'est réveillé en Sarthe chez les conducteurs il y a de cela un trimestre, on va dire. Ça a tapé assez fort. Donc nous, vous savez, des fois ça peut se mobiliser, voilà. Quand la coupe sera trop pleine, peut-être. Pour l'instant, on n'a pas, en tout cas, prévu d'action significative.
Bien, je vous remercie, Olivier Guix, secrétaire général de la CGT Cheminots Pays de la Loire. Merci beaucoup de donner notre micro.
Merci de nous avoir invités. Et je tiens à souligner aussi un petit soutien aussi aux salariés de Radio France qui sont en grève en ce moment. Eux aussi contre un projet donc bien néfaste. Je pouvais être à la radio pour le dire.
Eh bien, c'est noté. On vous en remercie.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.